des livres plein les oreilles. Salut à vous toutes et vous tous, Clotilde Seille en votre compagnie, à vous toutes et vous tous qui nous écoutez peut-être à Canal M, peut-être à CKVL ou encore en balado. Il me fait plaisir de vous présenter cette émission qui se fait un devoir et une joie de parler du livre qui se lit avec les oreilles, de tous les livres audio qui sont produits, pas seulement ceux qui sont faits au Québec, mais en France aussi. Et je me promets d'ailleurs un jour de le faire dans la francophonie africaine, suisse, où l'on parle trois langues, on parle pas juste le français en Suisse. On ira voir aussi du côté des Belges, ou que sais-je encore. Ce qui me réjouit, c'est de voir que malgré la petitesse du marché du livre audio, on en parle de plus en plus. Et surtout, on en écoute de plus en plus et donc on en produit de plus en plus. Au Québec, l'excellente maison d'édition Alto est récemment entrée dans la danse. Le livre La Desiderata, édité par Alto, fait partie de ses premières productions littéraires sonores. Nous en avions parlé il y a, je ne sais plus, 6 ou 7 semaines, avec son auteur Marie-Hélène Poitras et sa lectrice Pascale Monpetit. Aujourd'hui, pour vous, pour moi, j'ai voulu en savoir un peu plus sur Alto, sur ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils vont réaliser comme production audio, ce qu'ils ont réalisé déjà, et puis leur motivation et leur mission. Alors c'est Anne-Marie Genest, adjointe aux communications et à l'édition, qui va nous partager toutes ces infos et qui nous arrive avec des extraits de livres audio à découvrir. Également à l'émission des livres pleins les oreilles, le lauréat du prix Plume de Pan des lycéens en livre audio s'est remis à Eden de Monica Sabolo. Et puis l'International Booker Prize est revenu, lui, à Frères d'âme de David Diop. Ce sont des nouvelles réjouissantes pour le livre en général et aussi pour le livre audio. Et pour finir, je vais avoir une lecture d'été à vous proposer. Ça s'appelle L'Illusion. On est dans le polar signé Maxime Chattam. Ça se vend donc très très bien et même en audio. Alors, tout ça pour vous dire qu'il va y avoir énormément d'extraits.
À 20 minutes du centre-ville, j'habite une jolie maison. Dans une banlieue propre et tranquille, loin du bruit et de la pollution. Chaque matin, je me réveille dans la fidèle fatalité. De l'autoroute ou sans bouteille, les travailleurs bien cravatés. De la classe moyenne, ça veut dire que je suis endetté. Jusqu'au jour où la mort survienne, car pour la mort je suis assuré. Mais pour la vie, c'est la finance à qui je dois tout mon bungalow. Frigidaire et mes vacances, mes plants de tomates et mon auto. J'ai 2 enfants qui sont mon or et que j'adore, évidemment. Comme leur maman qui fut la femme dont autrefois j'étais la main. Et maintenant c'est l'habitude où l'on fait semblant d'être heureux. Et qui connaît la solitude, c'est qu'elle est plus terrible à deux. Parfois je rêve à mon enfance et dans le bar de mes 20 ans. Je trinque à ma dernière chance en pensant qu'il est encore temps. Mais le chanteur ne veut plus boire, il est 3 heures et tout s'éteint. La serveuse compte ses pourboires, le hasard des jours, le destin. À 20 minutes du centre-ville, j'habite une jolie maison.
Sylvain Lelièvre à Canalem, à l'émission Des livres pleins les oreilles. Et je joins tout de suite Anne-Marie Jeunesse ou Jeunet, Anne-Marie?
Jeunet.
Jeunet, que j'étais pas sûre. Bonjour Anne-Marie, ravie.
Bonjour,
ravie vraiment de vous accueillir à cette émission. Je dois préciser que je vous ai vu la binette il n'y a pas si longtemps, il y a 2 mois à peu près, lorsqu'on a participé l'une comme l'autre dans le cadre du festival du livre audio à Strasbourg, oui. À une discussion. Et ça m'a vraiment donné envie, le goût d'en savoir un petit peu plus sur ce que la maison d'édition Alto nous proposait dans le domaine du livre audio, car et depuis peu vous êtes entré dans la danse, comme on dit. D'abord, la maison d'édition Alto, sa mission, son âme, qu'est-ce qui fait sa différence, Anne-Marie Jeunet?
Ben Alto, pour la petite histoire, Alto a été fondé en 2005 par Antoine Tanguay, là, qui est président fondateur. Donc, depuis 2005, en fait, nous, on aime toujours dire qu'on est éditeur détonnant. Donc, donc c'est un peu ça qui fait notre différence, en ce sens que et une ligne éditoriale, on a bien beau la définir, mais elle est toujours en mouvance, en fait. Donc, même si on la fixait dans le temps, il y aurait des choses qui se rajouteraient et tout ça. Mais c'est sûr que notre catalogue, c'est de la fiction. Premièrement, des romans, des nouvelles. Et puis, qui est très influencé par les littératures de l'imaginaire, en fait. C'est ce qui intéressait Alto dès le départ. Donc, sans que ce soit de la franche science-fiction, du polar, des trucs comme ça, il y a toujours une petite parenté, si vous voulez, d'où l'étonnant. Et puis, donc, c'est ça, mais tu sais, on publie des grands noms de la littérature québécoise, comme, disons, Larry Tremblay, Dominique Fortier, mais on va aussi chercher des auteurs étrangers, comme David Mitchell, entre autres, qui est un très gros auteur chez nous, et puis de la littérature canadienne aussi, mais on a aussi publié à travers les années, tu sais, on a voulu faire redécouvrir certains livres, comme on avait publié plusieurs livres de Margaret Lawrence, qui est une grande auteure canadienne assez méconnue, donc tu sais, on joue beaucoup là-dedans, oui.
Bon. Et alors, quel est votre rôle à vous, Anne-Marie Jeunet? Parce que adjointe au com et à l'édition, OK. Ça mange quoi en hiver, cette madame-là?
Chez Alto, on est une petite équipe.
C'est
déjà,
ça, hein?
Donc, on est amené à faire beaucoup de choses. Même, on essaie de se trouver un titre pour que ça paraisse bien sur une carte d'affaires.
J'aime.
Et puis, on a des tâches qui nous sont attribuées, mais disons, les miennes sont un peu plus diverses. Donc, tu sais, j'ai en grande partie la responsabilité des salons du livre. Là, vous voyez, ça fait près de 2 ans que en tout cas, c'est pas ce que ça a déjà été, c'est sûr. Mm-hmm. On espère que ça va revenir après la pandémie.
Bien sûr. Sinon, je
travaille aussi pour ce qui est des communications, tout ce qui a rapport avec les rapports médias, mais je fais ça avec une autre de mes collègues. Pour les livres audio, c'est certain que là, j'ai eu un plus gros dossier, si vous voulez, en ce sens que moi-même, je suis grande amatrice de livres audio. Alors, quand on a décidé de se lancer là-dedans, bien, on m'a donné des responsabilités comme un peu, ben pas comme un peu, c'est dans le fond, j'ai fait quelques réalisations pour les livres audio, le contact avec les narrateurs, les auteurs, les studios, les musiciens, s'assurer que tout se passe bien, de la coordination, en fait, puis de la réalisation, c'est dans ce contexte-là.
Mais alors, pourquoi, tout d'un coup, quelle mouche à pique qui est alto pour se lancer dans le livre audio?
Eh bien, c'est certain qu'il y a plusieurs de nos livres déjà, avec l'arrivée sur le marché de Audible et de pour ne pas les nommer, et de Radio-Canada, entre autres, qui s'est mis à produire des livres audio, bien, certains de nos livres ont déjà été, sont déjà sur ces plateformes-là. Donc, c'était un peu de la vente de droits, si vous voulez, auprès de grosses plateformes comme Radio-Canada, avant même l'apparition de l'application audio. Donc, on avait déjà ça. Cependant, en 2019, il y a eu le gouvernement canadien, par le biais du Fonds du livre du Canada, dans le fond, qui a donné de grosses subventions aux maisons d'édition pour le livre accessible, dans le fond, pour qu'on puisse produire du livre accessible. Donc, ça passe par le numérique, mais ça passe aussi par le livre audio. Et puis, donc, à ce moment-là, il y a beaucoup d'éditeurs, dont nous, qui ont décidé, d'éditeurs québécois, qui ont décidé de rapatrier, dans le fond, la production des livres audio maison.
Maison, bien sûr. OK. Et est-ce que vous avez, vous donnez le but, Anne-Marie Jeannet, de chez Alto, vous donnez le but de faire du livre audio autrement que les autres?
Mais bien sûr, comme tout ce qu'on fait. Comme tout ce qu'on fait chez Alto, j'ai l'impression qu'on a envie qu'il y ait une signature particulière, qu'on reconnaisse les livres audio d'Alto de la même manière qu'on va reconnaître les livres papier d'Alto à leur couverture, leur design, leur signature littéraire et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à faire des livres audio, mais on a voulu ajouter un petit plus. Donc, évidemment, des narrateurs, narratrices choisis avec soin. Beaucoup, des comédiens, comédiennes, sinon des auteurs, autrices, mais ceux qui avaient déjà, si vous voulez, un passé là-dedans, qui avaient déjà, comme Hélène Dorion, si vous voulez.
Oui, je comprends.
On a adapté pas même Le bruit d'un fleuve d'Hélène Dorion. Hélène Dorion est habituée à faire de la scène, est habituée de travailler sa voix. Bon, alors... Des choses comme ça. Et puis aussi pairer, dans le fond, faire une espèce de paire entre narrateur et de la musique particulière. Donc, vraiment donner une bonne place à la musique dans le livre audio, que ça soit pour appuyer comme une espèce de ressort dramatique, s'il vous plaît, si vous voulez, ou que ça soit pour faire des transitions, c'est ça, originales. Que trois petites notes pour passer d'un chapitre à l'autre. Donc, ce qui fait qu'on a travaillé avec des musiciens, musiciennes plus connus ou qu'on a été chercher leur musique, tu sais, comme entre autres Marie Montante, un livre audio Marie Montante de Charles Quimper qui est adapté en livre audio, pour laquelle on a été chercher Millimétrique, qui fait de la musique électronique, qui est un musicien de Québec très connu sur la scène électronique. La Desiderata, c'est très marquant, c'est Marie-Pierre Arthur.
Oui, bien sûr.
Compositrice, musicienne.
Et sur Les villes de papier, qui a fait la musique?
Les villes de papier, c'est Patrick Ouellette, en fait, qui est un comédien, musicien, professeur au Conservatoire d'art dramatique de Québec. C'est quelqu'un avec qui, nous, on avait l'habitude de travailler, la maison d'édition étant située à Québec. Pour différents événements, on avait travaillé avec lui. Et puis, Les villes de papier, avant même de faire le livre audio, avait fait l'objet d'une adaptation sur scène, c'est Marianne Marceau, qui est une comédienne de Québec, elle aussi, lisait le texte. On avait fait une adaptation de mise en lecture particulière. Et puis, Patrick Ouellette jouait la musique. Donc, il y avait une trame sonore de Patrick Ouellette. Alors, on a utilisé la même trame sonore pour ça.
D'accord. Alors, je vous propose, puisqu'on en parle, que nous écoutions un extrait de « Les villes de papier ». On va en parler un petit peu plus après de ce texte-là signé Dominique Fortier.
Le frère et la sœur ont déplié devant eux des cartes géographiques. D'une chiquenaude, ils franchissent des fleuves et sautent par-dessus des frontières. C'est le seul genre de voyage auquel rêve Émilie. Certains atlas montrent des pays inconnus. Sur d'autres pages, elle reconnaît des noms familiers. « Tu vois, pour se rendre d'Amherst à Boston, » explique Austin à Emily, « il faut traverser Springfield, Leicester, Worcester, Linden, Waltham. » Du doigt, Emily suit sur la carte les villes en enfilade en prononçant les noms à voix haute. « Sauf que celle-là, » dit Austin en montrant Linden, « elle n'existe pas. » Emily lève les yeux sans comprendre. Le nom est imprimé dans le même caractère que les autres. Les cartes ne mentent pas. « Elle n'existe que sur la carte, » précise Austin. « Je le sais, j'ai fait le chemin 20 fois. Il n'y a là qu'un petit bois et des champs de maïs, pas même une cabane. » « Mais comment cela est-il possible? » demande Emily. « C'est une ville de papier. Les gens qui ont dessiné la carte l'ont inventée de toutes pièces afin de s'assurer que personne ne leur volerait à leur travail. »« Voler une ville? Quelle drôle d'idée !» fit remarquer Emily. « Voler non pas une ville, mais son nom et son tracé, » la corrige Austin. « Si d'aventure les fabricants de cette carte-ci découvrent sur une autre carte la ville de Linden, ils auront la preuve qu'on a copié leur ouvrage. » « Une ville de papier, » répète Émilie.
J'ai voulu laisser la respiration musicale, exactement comme si on était en train d'écouter ce livre. Je ne sais pas pour les auditeurs, mais moi, ça y était là. J'étais littéralement. Ah oui, non, mais moi, j'étais partie complètement. Alors, c'est un texte qui de Dominique Fortier. C'est une réflexion sur la société, sur les mondes, sur les lieux que nous habitons. Mais c'est aussi un hommage à Emily Dickinson, non?
Oui. Oui, c'est ça. Donc, grande poète devant l'éternel, oui. Emily Dickinson, qui avait une vie particulière, qui a vécu en recluse une bonne partie de sa vie. En fait, Dominique Fortier a décidé de faire cet hommage-là. Ben, je ne veux pas parler pour elle, mais en même temps, c'est ce roman, dans ce roman, ici, on le considère comme un roman, mais en France, parce qu'il a été publié en France, il a d'ailleurs gagné le Renaudot.
Le Renaudot, hein?
Oui, c'est ça. Il est considéré comme un essai. Parce que Dominique Fortier, entre les chapitres qui parlent d'Émilie, eh bien, il y a Dominique Fortier aussi qui parle d'un peu sa découverte de cette poète-là, de quand elle habitait tout près de Boston, et puis qu'elle a été visiter la maison d'Émilie Dickinson plusieurs fois. Donc, je trouve que le roman imagine un peu quelle a pu être la vie de cette poète-là, cette espèce de vie de recluse dont on ne sait absolument rien. Et puis à la place de, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'entends recluse dans ma tête, ça a l'air très sombre, très austère, alors que Dominique, elle a peint Emily Dickinson comme une personne qui a une vie intérieure si riche qu'elle n'a pas besoin de l'extérieur.
Non, c'est ça, exactement. C'est vraiment superbe. C'est un extrait là qui nous donne tellement envie. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir mâché beaucoup le travail, parce que généralement, personne ne fait ça pour moi et je suis obligée d'aller fouiller, d'aller tout ça. Alors, merci infiniment. La fin de l'alphabet.
Oui.
L'alphabet, devrais-je dire. Alors là, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est, qui a écrit ça et pourquoi avoir choisi Michel Rivard pour le lire?
Eh bien, la fin de l'alphabet donc est un livre de C.S. Richardson, qui est un auteur canadien-anglais, aussi éditeur, qui raconte l'histoire d'Ambroise Zéphyr, qui va apprendre qu'il n'a que quelques mois à vivre, en fait. Et puis, avant, pour profiter de ses derniers moments dans la plus grande folie et dans la plus grande joie avec sa compagne Zip, il décide de faire une liste de tous les pays ou de toutes les villes par ordre alphabétique qu'il pourrait visiter avant de mourir. Hein. Donc, c'est vraiment, c'est à la fois une histoire d'amour, une histoire sur la vie, sur la mort, sur l'espèce de... comment on peut se réconcilier avec ça, avec la date de tombée de la vie, si vous voulez. C'est ça pour l'histoire. C'est un roman vraiment extrêmement apprécié, toujours qu'il fait bon lire, même si le sujet semble un peu triste, ça n'en est rien, le texte est vivant, c'est très, très beau. Une super belle histoire qu'on vient tout juste de rééditer en format Kodak, qui est notre format poche. Et puis, pour le livre audio, ben Michel Rivard, c'était comme un choix évident, si vous voulez.
Ah,
on a lancé une ligne à l'eau et puis on s'attendait pas à ce qu'elle morde. Et puis Michel Rivard est lui-même tombé en amour avec le livre.
Et ça se sent quand il le lit.
C'est aussi,
formidable. C'est extraordinaire.
Oui, vraiment. Puis, en fait, on oublie souvent que Michel Rivard est un grand comédien québécois, un maître de l'improvisation. On l'exploite pas beaucoup comme ça. Il est auteur, compositeur, interprète depuis des années. Puis, on dirait qu'on oublie souvent qu'il peut aussi interpréter des textes comme un chef.
Alors, je propose à toutes nos auditrices et auditeurs, justement, de se remettre en mémoire à quel point ce type-là, lorsqu'il s'empare de mots, il y a d'ailleurs une musicalité dans sa lecture. En tout cas, je trouve ça absolument magnifique. Extrait de La fin de l'alphabet, un livre audio produit, réalisé par Alto.
Aux abords de la mosquée bleue, dans une ruelle qui faisait le coin avec le plus vieux bain public de la ville, un piéton curieux aurait pu remarquer un Anglais, tout chiffonné, retenant dans ses bras une femme en sanglots, comme si elle risquait de s'envoler en morceaux. Elle luttait pour se dégager, il resserrait son étreinte. Il murmurait à son oreille, elle se débattait. Il posait des baisers sur ses yeux inondés, elle détournait son visage. Quelques instants plus tard, la femme annonça qu'elle allait mieux. L'Anglais lui tendit une de ces petites babioles de verre bleu que les Turcs nomment Nazar Bonchuk et lui expliqua que les mères les épinglent aux vêtements de leur bébé pour les protéger. Le curieux aurait pu regarder encore un moment, puis il aurait passé son chemin et oublié l'incident. Ce soir-là, Zip et Ambroise se trouvèrent un banc dans un coin des jardins du palais de Tokapé, autrefois habité par de terribles sultans. Ambroise prétendit que les sultans pourvoyaient aux besoins de leur harem dans ces mêmes jardins. « Juste après le bain », précisa-t-il. Zip rétorqua qu'il fallait bien être un homme pour penser à des choses pareilles. Dans le jardin du sultan, Zip et Ambroise volèrent autant d'amour qu'ils l'osèrent. Il y eut plusieurs boutons défaits, des bretelles doucement écartées, le glissement d'une main chaude, des odeurs d'huile de bain et de savon parfumé, de peau frottée si fort qu'elle cuisait au toucher. Ils se dirent à voix basse de ne pas s'inquiéter.
C'est magnifique. Hein? Puis ce piano qui arrive aussitôt après. Avec la voix de Michel Rivard. La fin de l'alphabet, je voudrais qu'on rappelle le nom de l'autrice. Hein? C'est une femme. L'auteur. Okay.
Oui,
ah
oui.
D'accord, c'est Sophie Voyot qui a traduit. Et l'auteur,
oui.
C'est
C.S. Richardson.
Merci beaucoup. Quelques mots, parce que j'en ai déjà parlé à cette émission-là, il y a maintenant 7 ou 8 semaines, de la Desiderata, avec Marie-Hélène Poitras et Pascal Montpetit, mais ça a été un très beau projet aussi.
Ah oh oui, c'était magnifique, surtout que mais c'était une des premières fois qu'on le faisait presque en simultané, en fait. La sortie du roman en papier a eu lieu, papier et format numérique, là, a eu lieu seulement 2 semaines, je crois, avant la sortie du livre audio. Donc, il y avait une espèce de simultanéité aussi à avoir, que le texte soit encore tout frais à la mémoire de notre mémoire à nous. Et puis, c'est ça, Pascal, mon petit, c'était... Pascal Monpetit, en fait, voulait travailler avec nous depuis déjà un bout de temps. Elle avait écrit à mon directeur, elle aimait ce qu'on faisait et tout ça. Et puis, donc, on a sauté sur l'occasion quand ça a été la Desiderata, parce que vraiment, ce texte lui va incroyablement
bien.
Mais oui,
absolument.
Quel talent. Et puis, Marie-Pierre Arthur, encore une fois, c'est un peu... on a lancé une ligne à l'eau et puis ça a mordu. C'était formidable. C'était une super belle rencontre. Puis en plus, ce qu'elle a fait avec cette musique-là, elle et François
super.
Lafontaine,
ouais.
Il faut pas oublier de le mentionner. Le jeu sur les chansons traditionnelles et tout ça, mais en y rajoutant sa touche vraiment particulière,
Alors,
très fière de ça.
Anne-Marie Genet, très rapidement, est-ce qu'il y a des projets là? Est-ce qu'il va y avoir des sorties? Bon, on sait que là, l'émission va être diffusée à peu près à la mi-juillet. Est-ce qu'il y a des sorties audio prévues?
Pas avant l'automne.
Le
prochain, en fait, qui est dans les tuyaux depuis un bout de temps, c'est Tarmac de Nicolas Duchner, qui est paru, ça fait quand même plusieurs années, mais on adore Nicolas Duchner, on aime beaucoup ses textes, il se prête parfaitement au livre audio, on trouve. Et puis, donc, ça fait un bout de temps déjà que c'est prévu qu'on le fasse. Sinon, à l'automne, il va y en avoir 4 nouveaux. Je peux pas, on dirait, vous parler de tout jusqu'à maintenant, mais il y en a un dont je peux vous parler, c'est Au péril de la mer de Dominique Fortier.
Ah, ben oui, bien sûr.
Ben oui, un autre livre de Dominique Fortier qui avait gagné le prix littéraire du gouverneur général.
Magnifique.
À sa sortie, oui, c'est ça, et c'est la même chose, un peu le même schéma que pour Les villes de papier dans celui-là, la voix de l'auteur avec un narrateur cette fois-ci, un ami de l'autrice qu'on aime beaucoup et qu'on a hâte de vous faire entendre, mais pour l'instant, c'est ce qu'on va dire.
Ah, d'accord. Parfait. Alors, en une petite minute, vos livres audio, Alto, on les retrouve uniquement chez Alto ou est-ce qu'ils sont aussi diffusés sur d'autres plateformes
livres? Non, en fait, vous les retrouvez, oui, sur le site d'Alto, mais aussi sur la plateforme Les Libraires.
D'accord.
Et puis, très bientôt sur d'autres plateformes, mais c'est pas encore fait, mais ça s'en vient là, sur d'autres plateformes. Ouais, aussi.
Bon, parfait. Anne-Marie Genet qui travaille aux communications et à l'édition et notamment au niveau des livres audio chez Alto. Merci beaucoup pour cette entrevue, Anne-Marie.
Merci.
Moi, j'aime tellement toujours beaucoup savoir que ça grouille assez dans le livre audio pour voir comme ça sortir des studios, des livres et des livres et des livres qui s'écoutent par les oreilles. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt, Anne-Marie. Merci.
Au revoir.
Des livres pleins les oreilles, la suite. Des récompenses, des extraits, des bonnes nouvelles et un livre à lire avec les oreilles cet été. Voici pour le programme de la seconde partie à Des livres pleins les oreilles.
Cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit. C'est certain, j'en prendrai bien soin. J'en prendrai bien soin. Qu'il soit aussi beau que toi. Si tu veux attendre avec moi que les oiseaux reviennent, si tu peux souffrir ces semaines de silence et de froid, j'ai déjà dessiné pour toi un jardin au fond de la cour, à l'image de notre amour, quand tu y crois. Cet été, je ferai un jardin, si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit. C'est certain, j'en prendrai bien soin, j'en prendrai bien soin, pour qu'il soit aussi beau que toi. Nous regarderons pousser les fleurs, les légumes et les fruits, avec la foi des tout petits. Le soleil de 5 heures fera renaître nos ardeurs. Tu te souviens de nos étés, si tu voulais encore rester jusqu'aux chaleurs. Cet été, je ferai un jardin, si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit. C'est certain, si beau que toi. Cet été, je ferai un jardin, cet été, je ferai un jardin.
Ah, Clémence, 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 chère Clémence. Bon, c'est Eden de Monica Sabolo qui a remporté cette année le prix de la plume de paon des lycéens 2021. D'abord, un petit rappel de ce qu'est la plume de paon. Vous vous souvenez peut-être de Cécile Palinzuski qui était venue, du moins qui m'avait donné une entrevue téléphonique. Eh bien, c'est elle qui dirige la plume de paon, qui est une... un organisme complètement bénévole qui travaille en faveur du développement du livre audio et qui organise chaque année plusieurs manifestations, notamment plusieurs grands prix, qui met sur pied l'obtention et la remise donc de plusieurs grands prix, le grand prix du livre audio, le prix du public, Plume de paon des lycéens, et qui diffuse des informations sur l'actualité du livre audio et des interviews d'acteurs du livre audio. Autrement dit, c'est un petit peu le pendant en site internet de ce que fait Des Livres Plein les Oreilles en audio et en balado. Et cette année donc, c'est Eden de Monica Sabolo, produit par Audiolib, qui est lu par Nancy Philippot ou Philippot. J'imagine que les Français doivent plutôt dire Philippot, qui est donc le lauréat du prix Plume de paon des lycéens 2021. Nous sommes dans une région reculée du monde, à la lisière d'une forêt qui est menacée de destruction. Là où grandit Nita, qui rêve d'un ailleurs, jusqu'au jour où elle croise Lucie, qui est une jeune fille venue de la ville, solitaire, aimantant malgré elle les garçons du lycée. Celle-ci s'aventure dans les bois et y découvre des choses dangereuses. La faute, le châtiment et le lien aux origines sont au cœur de ce roman qui traite de l'adolescence et de ses métamorphoses. Voici un extrait d'Éden.
Un esprit de la forêt. Voilà ce qu'elle avait vu. Elle le répéterait, encore et encore, à tous ceux qui l'interrogeaient, au père de Lucie, avec son pantalon froissé et sa chemise sale, à la police, aux habitants de la réserve. Elle dirait toujours les mêmes mots, lèvres serrées, menton buté. Quand on lui demandait, avec douceur, puis d'une voix de plus en plus tendue, pressante s'il ne s'agissait pas plutôt de Lucie. Lucie, 15 ans, blonde, 1m65, short en jean, t-shirt blanc, disparue depuis 2 jours. Quand on lui demandait si elle n'avait pas vu Lucie, elle répondait en secouant la tête. « Non, non, c'était un esprit. L'esprit de la forêt. » Martha, 38 ans, employée aux services sociaux, connue pour sa capacité à écouter les plaintes sans jamais scier, on ne savait pas si elle était compatissante ou si elle s'en foutait, était sortie détacher les draps suspendus sur la corde à linge, tout au bout du terrain vague. L'obscurité dégageait un parfum métallique. À chaque fois qu'elle sentait ce goût de fer, cet air qui s'infiltrait sous la porte et à travers les fenêtres, fermées par des morceaux de scotch gondolant sous l'humidité, comme si les bois poussaient un long soupir, elle savait qu'il allait pleuvoir. Alors, le cou rentré dans sa parka militaire, elle fonçait dans le noir vers la corde à linge, en évitant de regarder la forêt, cet espace infini prêt à vous avaler.
Voilà, cet extrait proposé par Nancy Philippot, c'est sur le site notamment d'Audiolib qui l'a produit, mais sur d'autres sites, si vous le désirez, prix Plume de Pan des lycéens 2021. Ce qui est fou, c'est que David Diop avait remporté ce même prix-là l'an dernier, et cette année, il vient de recevoir nul autre que l'International Booker Prize pour Frères d'âme. C'est lu par Babacar by Fall. C'est également chez Audiolib et là nous sommes avec un type qui pendant la Grande Guerre voit tomber un ami, un camarade dans les tranchées et qui à ce moment-là il sort littéralement de lui-même et devient plus violent que la violence au point même d'effrayer ses camarades et après il faut vivre avec la culpabilité de tout ça. C'est assez éloquent comme extrait.
Je sais. J'ai compris, je n'aurais pas dû. Moi, Alpha Ndiaye, fils du très vieil homme, j'ai compris, je n'aurais pas dû. Par la vérité de Dieu, maintenant je sais. Mes pensées n'appartiennent qu'à moi, je peux penser ce que je veux. Mais je ne parlerai pas. Tous ceux à qui j'aurais pu dire mes pensées secrètes, tous mes frères d'armes qui seront repartis défigurés, estropiés, éventrés, tel que Dieu aura honte de les voir arriver dans son paradis, où le diable se réjouira de les accueillir dans son enfer, n'auront pas su qui je suis vraiment. Les survivants n'en sauront rien. Mon vieux père n'en saura rien. Et ma mère, si elle est toujours de ce monde, ne devinera pas. Le poids de la honte ne s'ajoutera pas à celui de ma mort. Ils ne s'imagineront pas ce que j'ai pensé, ce que j'ai fait, jusqu'où la guerre m'a conduit. Par la vérité de Dieu, l'honneur de la famille sera sauf, l'honneur de façade. Je sais, j'ai compris, je n'aurais pas dû. Dans le monde d'avant, je n'aurais pas osé, mais dans le monde d'aujourd'hui, par la vérité de Dieu, je me suis permis l'impensable. Aucune voix ne s'est élevée dans ma tête pour me l'interdire.
Magnifique voix que celle de Babacar Mbaye Fall qui a donc lu ce titre, ce livre de David Diop, Frère d'âme, qui vient de remporter l'international Booker Prize.
Relevée en élégance, des mains de musicienne couvertes de satin.
Une robe de rubis qui fut peut-être belle
à l'époque de rubis et des chants de Billy. Le regard en avalanche se remémore sa romance. Elle oublie que le temps est un mauvais plaisant.
Une bague sous le gant lui rappelle la flamme
qui s'élèvera d'antan pour danser toute la nuit.
La nuit, quand jeune fait couler le whisky, jusqu'à voir le soleil de midi. Mon amour, ma folie, étourdis-moi encore. Comme si demain sonnait notre dernier accord.
possible comme il chante une mélodie galante, un air familier qu'elle avait oublié.
C'est le temps du rendez-vous, elle doit se faire belle.
Chavire et ses cheveux, détache ses dentelles. Ah, pas pareil. Elle achemine à ses lèvres quelques perles d'ivresse. Elle n'a jamais vécu en sage demoiselle.
Une vague de folie qui soudain se rappelle.
Il rigole avec Robbie et danse avec Billy.
La nuit est encore jeune, fait couler le whisky jusqu'à voir le soleil de midi. Mon amour, ma folie, étourdis-moi encore. Comme si demain sonnait.
C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est très, très bon. J'adore ça. En été, écoutez ça. Damoiseau, c'est le nom de l'ensemble du groupe voilà, qu'on vient d'entendre. Et il y a quelque chose que j'adore faire aussi en été, c'est lire des polars. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire en saison, entre guillemets, régulière. Et quand l'été arrive, c'est amenez-en des polars. Il me semble que c'est la bonne époque pour ça. Notamment, j'avais envie de lire L'Illusion de Maxime Chattam. J'avais encore jamais rien lu de Maxime Chattam. Chattam, qui est quand même un maître du polar, ça se vend comme des petits pains. C'est un livre qui existe maintenant en audio, bien sûr, sinon je vous en parlerai pas. Il est lu par Charles Morillon. Le résumé qu'on nous en fait, on nous dit bienvenue à Valcarios, petite station de ski familial qui ferme ses portes l'été. Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver, mais déjà quelque chose l'inquiète, ce sentiment d'être épié, ces visions qui le hantent, cette disparition soudaine. Quelques secrets terrifiants se cachent derrière ces murs. Hugo va devoir affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à douter de sa raison. Alors bienvenue à Valcarios, une jolie petite station familiale où la mort rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été.
La nuit était tombée à la vitesse des emmerdes. C'était une des expressions préférées d'Hugo. Considérant que les emmerdes vous tombaient dessus plus vite que la lumière, et a fortiori bien plus rapidement que le bonheur, il l'employait à tout bout de champ. Le jour s'évaporait en un claquement de doigts en altitude. Il en avait entendu parler, mais pensait que c'était surtout une formule. Pourtant, il n'avait rien vu venir. Le temps de vider ses affaires dans la penderie et la commode, de filer sous la douche, qu'il avait fait durer certes un bon moment, savourant le jet chaud qui dénouait les lourdeurs causées par l'interminable trajet, et quand il en sortit, il faisait noir à l'extérieur. Et pas qu'un peu. Une encre pure, pas même diluée par une flaque de lune, ou au moins les éclats timides d'étoiles. Non, rien du tout, rien de tout cela. Rien qu'une obscurité profonde, délimitée par le plafond de nuages épais. Sa fenêtre réfléchissait à présent bien plus l'intérieur qu'elle ne dévoilait l'extérieur. C'était un truc qu'Hugo avait toujours trouvé curieux, ça, le principe des fenêtres qui, à mesure que le soleil s'éclipsait, refusaient de dévoiler les ténèbres pour s'intéresser à ce qu'elles pouvaient renvoyer. la transparence se muant en miroir. Y avait-il des choses là, dehors, dans le monde, qu'il était préférable de ne pas contempler ?
À chaque semaine, lorsque je prépare cette émission, je vais sur les nombreux sites, les nombreuses plateformes où on vous propose des livres audio et je veille, je guette pour voir si des fois il n'y aurait pas quelques nouveautés croustillantes à se mettre entre les oreilles. Et là, ben oui, je tombe sur le prix Renaudot 2020, mais je me dis « mais Dieu me donne ». Je n'en ai point encore parlé de ce prix Renaudot qui a été remis à Marie-Hélène Lafont. C'est le titre du livre, c'est « Histoire du fils ». C'est lu par Samuel Labarthe et on retrouve cet enregistrement-là chez Lizzie qui l'a produit, L-I-Z-Z-I-E, mais comme toujours aussi sur beaucoup de plateformes de livres audio. Le résumé qu'on nous en donne, le fils, c'est André. « Histoire du fils », on parle d'André. La mère, c'est Gabrielle et le père est inconnu. André est élevé par Hélène, la sœur de Gabriel, et son mari. Il grandit au milieu de ses cousines. Chaque été, il retrouve Gabriel qui vient passer ses vacances en famille. Entre Figeac dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac dans le Cantal, et Paris, Histoire du fils, sonde le cœur d'une famille, ses bonheurs ordinaires et ses vertiges les plus profonds, ceux qui creusent des galeries dans les vies sous les silences. Avec ce nouveau roman, nous dit-on, Marie-Hélène Lafont confirme la place si particulière qu'elle occupe aujourd'hui dans le paysage littéraire français. Il faut savoir que Madame Lafont est professeure de lettres classiques à Paris et que tous ses romans sur papier sont publiés chez Buchet-Chastel. Alors encore une fois, extrait du prix Renaudot 2020, Histoire du fils de Marie-Hélène Lafont et un extrait.
Il réfléchit beaucoup aux odeurs et aux couleurs des gens, des choses, des pièces ou des moments. Et quand Antoinette vivait avec eux à Chanterelle, il la faisait rire avec ce qu'elle appelait ses folies. Et elle riait, elle riait. Elle pleurait aussi du coin des yeux à force de rire tellement. Maintenant, il ne peut plus dire ses folies à personne. Georges sent la confiture de prune. Quand la tante la laisse cuire longtemps en été dans la bassine de cuivre, il sent cette confiture à ce moment précis. Et pas quand on l'étale sur des tartines au goûter en hiver. Même le père en mange. Et fait des compliments à la tante qui ne lui répond rien et le regarde comme si elle le voyait pour la première fois. Amélie sent la rivière, au printemps, la rivière haute des neiges fondues. Paul sent le vent et la lame froide des couteaux qui sont dans la cuisine et qu'ils n'ont pas le droit de toucher. Pour sa mère, il hésite, et ça change tout le temps. La neige, quand elle devient bleue le soir au bord du bois, le café chaud. Elle sent rouge aussi, certaines fois. Pour le père, la soupe de légumes peut-être, mais il ne trouve pas vraiment. Il s'arrête. Ça se fige à l'intérieur de lui et il préfère ne pas insister. Les odeurs sont un jeu et on ne peut pas jouer avec le père.
Et enfin, chez Gallimard, la collection Écoutez lire que j'affectionne beaucoup, j'ai trouvé comme nouveauté ce texte lu par Pierre-François Garrel, ce texte que dis-je, je ne sais pas comment appeler ça, roman, essai, tout ça. Avec Philippe Roth, on n'est jamais très très sûr, toujours est-il que je parle bien de la tâche. À la veille de la retraite, on rencontre ici un professeur de lettres classiques qui est accusé d'avoir tenu des propos racistes envers ses étudiants. Alors il préfère démissionner plutôt que de livrer le secret qui pourrait l'innocenter. Et tout cela se passe au moment de l'affaire Lewinsky qui défraie les chroniques bien pensantes. Alors Nathan Zuckerman ouvre le dossier de son voisin Coleman Silk, puisqu'après tout il a du temps, et il découvre que derrière la vie très rangée de l'ancien doyen, eh bien il y a un passé inouï, celui d'un homme qui s'est littéralement réinventé, et un présent, nous dit-on dans le résumé, non moins ravageur, notamment une liaison avec la sensuelle Fonia, femme de ménage et vachère de 34 ans, prétendument illettrée, étalonnée par un ex-mari vétéran du Vietnam, obsédé par la vengeance et le meurtre. Et tout ça, je vous le rappelle, avec en toile de fond au niveau de l'actualité, Monica Lewinsky et l'affaire Bill Clinton, et entre autres, le cigare. Alors on nous dit dans ce résumé qu'après Pastorale américaine et J'ai épousé un communiste, La tâche est un roman, eux ils appellent vraiment ça un roman, à la fois brutal et subtil, du grand Philippe Roth, qui complète la trilogie. une trilogie sur l'identité de l'individu dans les grands bouleversements de l'Amérique de l'après-guerre, où tout est équivoque, où rien n'est sans mélange, parce que la tâche, elle est en chacun de nous, inhérente, à demeure, constitutive. Elle qui préexiste à la désobéissance, la tâche qui englobe la désobéissance, défie toute explication, toute compréhension. C'est pourquoi laver cette souillure n'est qu'une plaisanterie de barbare et le fantasme de pureté terrifiant. Quand je vous dis que c'est du grand Philippe Roth, c'est du grand Philippe Roth. Et en voici un extrait de La Tâche. Je vous rappelle le nom du lecteur, Pierre-François Garrel. C'est sorti chez Gallimard Écoutez Lire. Sur CD aussi, d'ailleurs, ça existe. Durée d'écoute, environ 13h30.
En Nouvelle-Angleterre, l'été 1998 s'est distingué par une tiédeur, un ensoleillement délicieux, et au baseball, par un combat de titans entre un dieu du home run blanc et un dieu du home run café au lait. Mais en Amérique en général, ce fut l'été du marathon de la tartufferie, le spectre du terrorisme qui avait remplacé celui du communisme comme menace majeure pour la sécurité du pays, laissait la place au spectre de la turlute. Un président des États-Unis quadragénaire, plein de verdeur, et une de ses employées, une drôlesse de 21 ans, folle de lui, batifolant dans le bureau ovale comme deux ados dans un parking, avait rallumé la plus vieille passion fédératrice de l'Amérique, son plaisir le plus dangereux peut-être, le plus subversif historiquement, le vertige de l'indignation hypocrite. Au Congrès, dans la presse, à la radio et à la télé, les enfoirés à la vertu majuscule donnaient à qui mieux mieux des leçons de morale dans leur soif d'accuser, de censurer et de punir, tous possédés par cette frénésie calculée que Hawthorne, dans les années 1860, j'aurais été pour ainsi dire son voisin, avait déjà stigmatisé à l'aube de notre pays comme le génie de la persécution, tous mouraient d'envie d'accomplir les rites de purification astringents qui permettraient d'exciser l'érection de la branche exécutive. Après quoi, le sénateur Lieberman pourrait enfin regarder la télévision en toute quiétude et sans embarras avec sa petite fille de 10 ans.
La Tâche de Philippe Roth, désormais en audio chez Gallimard. Écoutez lire. J'ai envie de vous parler, et là on parle d'actualité, j'ai envie de vous parler d'une camionnette rouge qui est en fait une librairie et qui s'en sort à merveille malgré la Covid. Bon, c'est sûr que là, le nombre de kilométrages qu'elle a fait les deux années précédentes ont été un peu plus limités, mais cette année, eh bien, cette camionnette rouge reprend du poil de la bête. Le camion qui livre, c'est joli, hein, le camion qui livre, qui n'a jamais renoncé à ses voyages, eh bien, cette année, il reprend du service. Et oui, nous sommes dans l'Hexagone, nous sommes en France. C'est un camion qui livre entre autres dans les principaux lieux de villégiature. Et offre un moment non seulement d'échange, de discussion, de convivialité, mais ce camion qui livre ne fournit pas seulement des livres en peine de mots, c'est aussi l'occasion de vivre l'été un petit peu plus intensément avec des auteurs parfois qui se prêtent à des dédicaces ou encore à des ateliers d'écriture, des rencontres et même des ouvertures la nuit. Et en plus, on vous propose des livres en audio. Alors vous me direz, mais pourquoi je vous en parle si c'est en France ? Eh bien parce que je me prends à rêver d'un camion rouge qui serait par exemple à l'île d'Orléans du 8 au 14 juillet, à la Malbaie, la semaine suivante, puis à Rivière-du-Loup, à Rimouski, à Trois-Pistoles, à Sainte-Luce-sur-Mer, à Percé, à Tadoussac, à Bécomo, à Sept-Îles, on peut rêver. « Quand on aime le livre audio, on aime souvent le livre point. Alors, vous serez content d'apprendre cette nouvelle que j'ai vue passer sur le fil de l'actualité. C'est au sujet de la grande librairie de François Bunel qui va revenir sur les ondes de TV5 avec, pour seul mot d'ordre, le plaisir. Vous savez que sur le plateau, il y a toujours un paquet d'écrivains connus, mais pas que des écrivains connus, des écrivains de toute nationalité qui nous donnent envie de déguster ces histoires, que ce soit par les oreilles ou par les yeux, dévorer ces pages et ces mots en fin gourmet. J'imagine que vous êtes comme moi de la littérature. C'est donc présenté par François Bunel. Pour l'instant, l'émission est présentée les jeudis en fin de soirée, si je ne m'abuse. Je ne sais pas à quelle heure l'émission sera en reprise à TV5. Ce que je sais, c'est que dès l'automne, elle sera à nouveau présente ici au Québec. Et c'est sur cette bonne nouvelle que je vais vous abandonner une fois encore à vos lectures par les yeux ou par les oreilles. Je voudrais remercier Jean-Sébastien Laliberté qui m'accompagnait encore une fois aujourd'hui. Je suis Clotilde Seille et je suis ravie d'être avec vous à chaque semaine pour vous parler de ces livres qu'on déguste. Je vais finir par le dire. Voyez-vous, il y a des fois où il faut s'arrêter, il faut prendre des vacances, il faut aller prendre une bonne bière sur une terrasse et c'est ce que je vais aller faire de ce pas. Bonne lecture à tout le monde. Merci Jean-Sébastien. Merci à vous d'être là par CKVL, par Canal M ou en balado. Salut!